À midi 28, Zoo de Falardeau qui est dans l'actualité aujourd'hui parce qu'il y a une dizaine d'anciens employés du zoo qui ont témoigné au journal Le Quotidien de ce qu'elles ont vu, de ce qu'elles ont vécu lorsqu'elles travaillaient au zoo de Falardeau et elles croyaient que c'était nécessaire de le dénoncer. Beaucoup de cas de maltraitance, on l'évoque depuis le début de la journée en onde, si vous nous suivez là, depuis très tôt ce matin, tout a pas mal été dit, mais quand même, je pense que c'est important de reprendre un petit pas de recul sur le zoo de Falardeau, qui a commencé ses activités en 2002, puis c'était pas sous ce nom-là, hein?
Non.
C'était le Centre d'observation de la faune de Saint-David de Falardeau. En 2002. Et ça permettait, exemple, de prendre des animaux sauvages du Québec qui étaient abandonnés, qui étaient blessés et de les héberger, les soigner, pas à bonne franquette, mais c'était soit ça ou bien ils mouraient sur le bord de la route. Là.
C'est ça.
En gros, c'était ça. Et je me souviens très bien, ça m'est revenu ce matin en lisant l'article de Laura Lévesque dans Le Quotidien, en écoutant mes collègues Dominique Fortin et Martin Thomas. C'est un auditeur qui, malheureusement, maintenant, est décédé de la maladie, qui a mis la puce à l'oreille il y a déjà plusieurs années. C'était peut-être autour de 2005, 2006, 2007, dans ce boulot, en tout cas. Jean, qui m'avait dit, photo à l'appui, j'ai flatté un tigre au centre d'observation de la faune de Saint-David de Falardeau. Je dis, mais regarde, ça n'a pas de bon sens. Je te jure, m'envoie la photo, puis effectivement, en train de flatter un tigre. Puis là, il me dit, Monsieur Gagnon m'a expliqué que c'était un tigre qui était destiné pratiquement à l'abattoir parce qu'il avait fait ses années de soit dans les publicités ou des plateaux de télé, ou puis il a décidé de l'accueillir. Je dis, ah, ben, regarde, c'est quand même cool, là, tu sais. Puis, sans même, j'avais parlé à Monsieur Gagnon pour savoir c'était quoi le triple buzz maintenant d'accueillir des animaux sauvages. Puis, il dit, c'est rien, ça. Je veux que ça devienne un peu plus gros que ça. Il y a d'autres animaux qui sont dans la même situation. J'aimerais ça les accueillir. Et maintenant, vous savez la petite histoire. C'est devenu très, très gros. Les portes ont été ouvertes au public en 2009, donc 5-6 ans après l'ouverture du refuge. Et c'est en 2012 seulement qu'ils ont obtenu leur permis de jardin zoologique, qui vient avec certaines exigences, dont la présence d'un vétérinaire, puis tout le kit, puis des surveillances du ministère de la Faune. D'ailleurs, on va lui parler tantôt au ministère de la Faune. Mais la question que je me posais toujours, moi, c'est qu'avant qu'ils obtiennent le titre de jardin zoologique, qu'est-ce qui permet à du monde d'avoir autant d'animaux exotiques chez eux? Et c'est un permis de dresseur d'animaux, principalement pour le cinéma, les publicités qui leur permettaient d'avoir ça. Donc, c'était une espèce de trou dans la loi qui leur permettait de posséder ces animaux-là. Et bien là, c'est devenu extrêmement aussi populaire auprès des jeunes puis auprès des pet lovers parce qu'ils permettaient de flatter les bébés animaux. Ils faisaient beaucoup de publicité là-dessus. Et encore une fois, on avait parlé à M. Gagnon et je lui avais demandé... Des bébés animaux, c'est une chose. Là, quand sont des petits minous, les petits tigres sont tout petits, c'est correct, pas pire. Mais à quel moment vous décidez de les prendre puis de les mettre en cage puis qu'ils ne sont plus accessibles au public? Puis il m'avait répondu, ben, quand ils commencent à tirer trop fort sur ma laisse. Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser certaines questions. Puis on va parler au ministère de la Faune tantôt. Tu sais, là, tu as le zoo de Saint-Édouard qui a été dans l'actualité. Tu as le zoo de Falardeau qui l'est aujourd'hui. J'ai parlé à l'attaché de presse du ministre de la Faune qui m'a répondu, le ministre reconnaît que les faits rapportés dans l'article sont extrêmement troublants. S'il s'avère, ceux-ci ne peuvent être tolérés. Pour le ministre, c'est primordial que la garde d'animaux en captivité se fasse dans le respect du bien-être animal et de la sécurité du public. Étant donné qu'une enquête est présentement en cours par la protection de la faune, le ministre doit limiter ses commentaires, mais le ministre et son équipe au cabinet suivent de très près les conclusions de celle-ci. Quand on parle de sécurité du public, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est au courant qu'il y a des affaires bizarres qui se passent aux zoos de Falardeau. Là. On a eu à travers le temps, Fred, des témoignages de gens qui se sont rendus à l'hôpital, qui se sont fait mordre, qui se sont fait mordiller.
Des incidents singuliers, là, oui, ça est arrivé à quelques reprises.
Le ministère a maintenant envoyé une lettre aux zoos de Falardeau pour dire arrêtez de faire flatter les animaux sauvages par les résidents. Ils n'ont pas obtempéré. Récemment encore, il y a des employés qui se sont fait mordre. Ça a fait moins l'actualité un petit peu, mais c'est arrivé. Et au-delà du ministère, qui d'après moi devrait faire sa job plus que ça et encadrer davantage ce type de refuge-là, parce qu'il y en a beaucoup trop, que ce soit le zoo de Saint-Édouard, le zoo de Falardeau, ou encore les espèces de trucs de reptiles ambulants, là, comme le crocodile qui se promenait sur Jarry à Montréal cet été, puis qu'il y a d'autres incidents qui se sont produits avec eux autres. Je pense que tout le monde qui encourage ce type d'endroit-là est responsable, est coupable de la situation, d'avoir fait grossir des endroits comme le zoo de Falardeau, qui était rendu à une centaine de milliers de visiteurs. Ma position n'était pas très populaire, puis elle ne doit pas l'être encore. J'ai jamais mis pied là, puis je te garantis que même si les garderies, les écoles de mes enfants décident de faire une activité, une sortie là, bien, mes enfants, ce sera un petit plat de la gang, puis ils vont rester à la maison. J'ai jamais trouvé ça sécuritaire, la façon d'aborder le contact avec le public et les animaux. Puis quand je dis que tout le monde en est coupable, je le nommerai pas, mais j'ai un collègue ici qui m'a déjà dit en onde, puis il n'anime pas dans Midi-Pile si vous voulez essayer de trouver, là. Il m'a déjà dit, mais ça a bien du bien-être des animaux. Moi, c'est mon bien-être personnel qui compte, puis j'aime ça flatter des bébés animaux. La majorité du monde qui allait aux eaux Falardeau, c'était exactement ce qu'ils pensaient. Puis on se fermait les yeux tant qu'un reportage comme celui de ce matin ne sortait pas en se disant « J'ai du fun, c'est important. » Et je te lis un passage de l'article d'une ex-employée interrogée par Laura Lévesque. On était en quelque sorte des monstres, nous aussi. On disait aux visiteurs que les animaux étaient plus confortables avec les humains, mais on mentait. C'est pas vrai. Souvent, les bébés pouvaient mourir à cause du stress causé par cet inconfort. Les gens trouvent ça drôle, hein? Un bébé alpaga de quelques jours qui tète les doigts des visiteurs. Mais quand c'est nous qui le retrouvons mort dans la pouponnière le lendemain, ça devient un peu moins drôle. Le lynx qu'on faisait flatter au public était devenu impatient. Le matin, je me disais que c'était pas une bonne idée de le présenter. J'avais proposé de le faire une fois en matinée puis une fois en après-midi, mais ils n'ont jamais voulu. Cette journée-là, le lynx a mordu un client. On est chanceux qu'il n'y ait pas eu plus d'incidents pour la population. Puis, c'est, comprenez-moi bien, la photo que j'ai reçue du petit renard à moitié mort qui s'était fait faire un garrot, si c'est bel et bien véridique, là, j'aime pas ça voir des images de même. Mais je suis pas un pet lover outre mesure. Tu sais, les histoires de maltraitance, c'est plate, là, mais c'est pas des humains, OK? Moi, de donner du stress à des animaux, mais de continuer à les faire côtoyer la population, des adultes qui se font mordre, c'est bien votre maudit problème. Mais s'il y a des parents assez cabochons pour permettre à leurs enfants d'approcher des animaux, des fois, on doit protéger les enfants de l'imbécilité de leurs parents. Ouais. Et quand l'animal a un stress, c'est imprévisible, puis tu ne sais pas comment va réagir cet animal-là. Moi, je pense pas mal plus à la sécurité du public qu'au bien-être des animaux.
J'amène pas un contrepoids, mais j'amène juste ma pierre à l'édifice parce que j'ai toujours dit la même chose. Puis on se répète comme une vieille cassette, mais...
Tu vas me dire, t'es jamais allé, tu sais pas?
Ben non, c'est non, correct, non, je te dis pas ça, je te dis pas. Moi, je te dis, j'y étais à chaque année, j'ai jamais eu de problème. Puis j'ai toujours aimé la place. Mais, tu peux être sûr et certain que si les faits allégués sont vrais, j'ai un sapristi de problème avec ça. Si ce qu'on me raconte dans le journal est vrai... C'est impossible pour moi de cautionner ça.
Mais tu sais, Fred, c'est un peu hypocrite, là. Puis t'es un peu le porte-parole dans l'émission de tous ceux qui aimaient ça y aller pendant des années. Mais tu devais bien savoir que c'est pas normal que des dizaines, voire des centaines de personnes flattent des animaux sauvages jusqu'au temps que les animaux soient impatients puis qu'on les retire du public, là. Tu devais bien savoir qu'à long terme, ça allait mal virer.
En fait, la situation du zoo de Falardeau existe peut-être à des milliers d'endroits dans le monde. Maintenant, il y a... Faites-moi pas passer pour le méchant de service dans l'histoire, mais il y a quand même des gens qui dénoncent le zoo de Falardeau qu'ils font de manière anonyme. Est-ce qu'ils le font pour se protéger des gens qui aiment le zoo ou ils le font parce que ça sent le coup fourré? Je ne sais pas. J'aurais aimé personnellement que si ces gens-là ont la conviction de dénoncer la cruauté animale, qu'ils le fassent à visage découvert. Ça aurait amené peut-être... la couche de crédibilité supplémentaire qui manque.
Pourquoi l'ont-ils pas fait avant?
Et pourquoi l'ont-ils pas fait
avant? Parce que ça date de plusieurs années, les constatations. On aurait pu éviter à des pauvres animaux, selon leur dire, soit de mourir ou encore d'être maltraités. Donc, tant le ministère, tant ces employés-là, ces ex-employés-là, qu'une bonne partie du public sont, à mon avis, responsables et complices dans ce qui sort ce matin.
Mais d'un autre côté... Il y a énormément de gens qui s'improvisent biologistes aujourd'hui. Et ça, c'est un piège extrêmement vicieux. Et je m'explique. Le piège de s'improviser biologiste, c'est d'avoir un jugement sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Et croyez-moi, dans le monde de la radio, on essaie d'éviter ce piège-là à tour de bras. On est des observateurs, on n'est pas des spécialistes. Et les gens doivent en faire un peu la même chose. Je m'explique. Moindrement, vous avez peut-être cohabité sur une ferme, vous savez que vous ne pouvez pas toujours, même dans des conditions optimales, il y aura toujours des bébés animaux qui vont mourir. T'sais, sur une ferme, là, écoute, pour avoir travaillé sur des fermes à l'occasion, côtoyé des gens sur des fermes, même s'il n'y a pas de touristes, il y aura toujours des petits cochons qui vont mourir, il y aura toujours des petites vaches qui vont mourir, il y a toujours des petites poules qui meurent. c'est la vie. Alors,
mais il y a des conditions.
Il y en a toujours.
Il y a des conditions minimales à respecter quand même. Tu sais, quand on évoque dans le reportage.
Là, le problème, c'est que c'est ça.
De moins 40 degrés, le climat du Québec ça. N'est pas fait pour certains animaux.
Mais
exotiques.
Tantôt, dans le bulletin, on vous fera réentendre un témoignage qu'on vous a fait jouer dans le bulletin. Et moi, je pense qu'on a mis le doigt sur le bobo. C'est devenu trop gros. Ça part de bien bonnes intentions. Je suis convaincu que M. Gagnon est extrêmement bien intentionné. On a grossi trop vite et on a peut-être manqué de savoir gérer la chose. C'est une opinion.
Je vous disais tantôt que le ministre n'était pas disponible pour une entrevue aujourd'hui. On s'est réfugié d'une certaine façon sous l'enquête, parce qu'il y a une enquête de la Sûreté du Québec et une enquête de la protection de la faune. On m'a répondu sensiblement la même chose pour les fonctionnaires du ministère en me disant « on ne peut pas commenter la situation particulière parce que c'est sous enquête ». C'est correct, je comprends ça, mais je voulais quand même aborder certaines questions plus générales sur ce type d'endroit-là. Et ça a proliféré, ça a vraiment explosé au cours des dernières années au Québec avec un certain succès, même certains qui sont portés à l'écran. On va aller rejoindre Frédéric Lelièvre, qui est biologiste au ministère de la Faune. Monsieur Lelièvre, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Dites-moi, si quelqu'un veut se partir, soit un observatoire de la faune ou encore un jardin zoologique avec des animaux exotiques, comment ça fonctionne au Québec pour en arriver là?
Ben, en fait, tout dépend des animaux qu'il va vouloir garder en captivité, parce qu'une grosse majorité des espèces pour lesquelles il va avoir besoin d'un permis pour les garder, parce que c'est des espèces qu'on a jugées justement qui présentent soit un risque plus important pour la sécurité du public, pour la conservation de la faune, quand on pense aux espèces exotiques envahissantes, ou carrément parce que ces espèces-là ont besoin vraiment de soins plus particuliers. Fait que nous, en fait, on a une réglementation qui encadre toute la façon dont les animaux doivent être gardés. Puis en demandant un permis pour justement des espèces là, qui ont des besoins plus particuliers, ben ça nous permet de mieux justement suivre l'application de la réglementation.
C'est quoi le suivi qui se fait puis les exigences?
Ben c'est assez large quand même parce que la réglementation a complètement été revue en septembre 2018. Donc, on a vraiment un tout nouvel encadrement réglementaire là, qui est entré en vigueur en 2018. Donc, il y a beaucoup plus de normes qu'auparavant qui ont été mises en place justement pour s'assurer que au niveau de la sécurité, on a des meilleures règles qui sont appliquées. Donc, c'est assez varié. Là, ça va de l'obligation d'avoir des transferts pour certains animaux dangereux pour être capable de travailler de façon sécuritaire avec eux pour limiter les risques d'évasion jusque à tous les soins qui doivent être fournis aux animaux au niveau de l'aménagement des cages, des structures pour grimper, des choses comme ça, de l'enrichissement environnemental. Fait que ça, c'est tout nouveau depuis 2018. Donc, nous, présentement, au niveau du Québec au complet, là, il y a quand même beaucoup d'inspections qui vont se faire, puis d'informations aux gens qui ont justement, qui avaient des permis aussi auparavant, qui ont été, dans le fond, transférés dans le nouvel encadrement réglementaire pour justement les informer des nouvelles règles, les amener à se conformer. Puis justement, il y a encore des modalités transitoires là, pour le passage à cette nouvelle réglementation-là qui sont encore en application jusqu'en septembre prochain. Là.
Je comprends que vous ne pouvez pas commenter des cas précis, mais je faisais état tantôt du zoo de Saint-Édouard qui était dans l'actualité. Maintenant, on a le zoo de Falardeau. Visiblement, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Dans un cas, c'est rendu en justice. Dans l'autre, c'est sous enquête. Mais est-ce normal qu'on n'ait pas davantage signalé ces problématiques-là lors de vos inspections?
En fait, comment je vous dirais? C'est sûr que quand nous, on fait une inspection, là, présentement, comme je vous ai dit, là, on est vraiment en changement réglementaire. Il y a encore des gens qui ont un délai, en fait, pour se conformer aux nouvelles normes. Fait que c'est très possible que dans différents sites, on soit pas encore exactement aux nouvelles normes parce qu'ils ont encore, dans beaucoup de cas, jusqu'en septembre là, pour se conformer. Il y a des choses que nous, on peut voir quand on fait une inspection parce que c'est sûr qu'on inspecte les structures. Donc, on va voir est-ce que la cage, la superficie qu'elle devrait avoir, est-ce que les clôtures ont les bonnes hauteurs, etc. On va rencontrer les propriétaires, on va poser des questions. Mais évidemment, on peut pas tout voir dans une inspection. Puis c'est là que c'est important que, entre autres, justement, les gens qui travaillent dans des endroits où il y a des animaux, s'ils voient des choses qui sont pas corrects, dans le fond, qui sont des mauvais traitements aux animaux, qu'ils le signalent parce que on peut pas être sur place, nous, 24 heures sur 24, puis voir ce qui se passe au niveau, justement, des gestes qui pourraient être portés envers des animaux. Donc, les employés aussi, le signalement est important à ce moment-là parce qu'on peut pas tout voir lors d'une inspection.
Est-ce que les paramètres que vous avez sont foncièrement différents tout dépendant du type d'installation que vous allez visiter, c'est-à-dire un petit zoo, un grand zoo? Faites-vous une distinction assez grande entre un zoo et également un refuge pour animaux, ou c'est pas mal finalement tout uniforme au niveau de vos paramètres?
Je vous dirais que la plupart des normes sont reliées à l'animal qui est gardé, à l'espèce, plutôt qu'à la raison ou en tout cas au lieu où l'animal est gardé. Parce que dans les faits, nous, un animal qui soit gardé pour une raison X, Y, Z, il a toujours les mêmes besoins, il va toujours présenter le même risque au niveau de la sécurité. Donc, on a vraiment rattaché toutes les règles applicables à la façon dont les animaux doivent être gardés à l'espèce, plutôt qu'au type de permis ou vraiment la raison pour laquelle les animaux sont gardés en captivité. Fait que les normes pour la sécurité pour, par exemple, un tigre sont les mêmes, peu importe la raison pour laquelle le tigre est gardé. C'est la même chose, on peut prendre des animaux plus communs, par exemple un perroquet, qui soit gardé par un particulier ou qui soit gardé par un zoo, il y a toujours les mêmes besoins, donc les mêmes règles vont s'appliquer à la façon dont il devrait être gardé.
Je ne veux pas nécessairement de chiffres précis, mais vous avez fait état du tigre. Moi, dans ma tête, un tigre, à part peut-être ceux, des tigres de l'amour qu'on appelle, mais des tigres normaux qui vivent normalement dans des endroits plus exotiques. Il y en a combien au Québec des tigres? Combien de personnes ont des permis pour avoir des tigres?
Écoutez, j'ai pas l'information sous la main.
Moi, je m'en doutais.
Mais c'est sûr que les tigres, oui, c'est ça. Les tigres, c'est sûr que c'est quand même des animaux dangereux. Il y a des conditions de garde beaucoup plus précises là, au niveau de leur garde en ce qui a trait à la sécurité. Donc, c'est pas accessible à tous. Nous, au niveau des permis, c'est seulement que les permis vraiment professionnels qui vont pouvoir garder ce type d'animal-là au niveau des permis. Puis, en plus, ils ont des règles de sécurité à rencontrer. Fait que c'est quand même un petit nombre d'endroits qui vont en avoir. Puis là, je suis embêté de vous lancer un chiffre.
Mais est-ce qu'on devrait tout simplement arrêter ça? Tu sais, à part des vrais zoos reconnus par l'Association des zoos d'Amérique du Nord, comme exemple aux zoos de Saint-Félicien, zoos de Granby, c'est correct, là, mais des petites patentes puis des personnels qui décident d'avoir ce type de permis-là, est-ce qu'on devrait restreindre ça? Vous êtes biologiste, là?
Bien, en fait, c'est ce que le nouvel encadrement réglementaire va avoir comme résultat quand il va être complètement en vigueur. Là, comme je vous disais, on a encore du transitoire. Mais les animaux qui présentent des risques élevés, les normes de garde sont quand même, comme je vous dis, très restrictives. Là, c'est pas n'importe qui est capable de rencontrer les normes qui vont s'appliquer justement à certaines espèces. Les animaux dangereux, on a des règles de sécurité là, qui ont été vraiment ajoutées à ce niveau-là. Donc, un particulier pourrait pas avoir un permis pour avoir un tigre dans sa cour, de toute façon. C'est vraiment les entreprises qui peuvent avoir le type de permis justement professionnel. On se parle des zoos à ce moment-là. Puis, c'est sûr que nous, avec toutes les règles applicables à la garde de ces espèces-là, nécessairement, ça prend quand même des moyens pour être capable de garder ces animaux-là conformément aux nouvelles règles applicables.
Et dites-moi, est-ce que dans le nouvel encadrement, on interdit tout contact avec le public de ces endroits-là?
En fait, on a encadré le contact parce que c'est sûr qu'il faut avoir quand même en tête que des animaux, il y a de multiples espèces là, c'est pas tous les animaux qui présentent le même risque pour le public puis qui peuvent dans le fond être manipulés de la même façon. Tous les animaux à risque élevé, quand on se parle de grands félins, d'ours, de tigres, lions et compagnie, ça oui effectivement dans le nouvel encadrement, c'est des choses qui sont plus possibles à partir du moment où l'animal dépasse une certaine taille. C'est 18 kilos là, dans la réglementation. Donc, dès qu'ils ont plus que 18 kilos, ils ne peuvent plus être mis en contact avec le public. L'autre élément pour ces espèces-là, en fait, tous les mammifères, il faut aussi qu'ils reçoivent les soins de leurs parents. Donc, ça, c'est un autre élément aussi qui est une nouveauté au niveau de la réglementation. Donc, pour faire manipuler des animaux, il faut quand même que soit les parents tolèrent que pendant un court laps de temps, on retire le jeune qui soit mis en contact avec le public puis qui soit remis aux parents pour qu'il continue justement de s'en occuper. C'est pas toutes les espèces qui se prêtent à ça. Et l'autre élément, il faut pas non plus que ce soit un animal qui présente des risques élevés. Donc, ils ont été nommés au règlement, ces animaux-là. Puis dès qu'ils dépassent un certain poids, ils peuvent plus être mis en contact avec le public parce que le risque est trop élevé à ce moment-là.
Monsieur Lelièvre, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, merci.
Au revoir, bonne fin de journée. Frédéric Lelièvre, biologiste au ministère de la Faune. Vous comprenez qu'on n'a pas pu aborder la question exacte là, de ce qui est évoqué aux autres falardeaux parce qu'il y a une enquête de la protection de la faune et de la Sûreté du Québec. Puis je salue le ministère quand même de nous avoir permis de faire une entrevue. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Fait que...
Puis c'est un devoir de réserve qui est correct dans ce cas-ci parce que, comme je t'ai dit il y a 5 minutes, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'improviser biologistes ou experts en animaux. Mais comme des gens me soumettaient la question de tantôt ou de commentaire, des gens qui travaillent dans le domaine animal, où il y a de multiples cas de rapportés, et ça, c'est ultra inquiétant. C'est le multiple, moi, qui m'inquiète beaucoup. Mais chaque cas va être du cas par cas. Tu sais, exemple, ton tigre. Exemple, un tigre est mort. Il y a un tigre qui est mort, il y a une autruche qui est mort, il y a tel animal qui est mort. Tu peux pas mettre tout ça dans le même panneau, dans le même contexte parce que c'est sur le même endroit. Il faut que ça va être une job colossale. C'est quasiment une job d'enquête de chaque. T'sais, le singe, il est mort de quoi? Il est-tu mort de fret parce qu'il fallait pas qu'il soit au fret? Si oui, OK, il y a un blâme. Maintenant, est-ce qu'il y a un animal qui est
arrivé? Yes, maladies de son passé avant même qu'il arrive à Falardeau. Chacun est unique, t'as raison.
Puis, tu sais, je vais vous apprendre de quoi, là. Le principe de l'euthanasie, là, idéalement avec un pas un médecin, mais un vétérinaire qualifié, il y a une procédure. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Des euthanasies qui se sont faites à coups de masse dans le front ou des euthanasies qui se sont faites avec une balle entre les deux yeux, je veux dire, ça existe depuis que le monde est monde. Pourquoi ça a été fait? C'est-tu pour abréger souffrance? C'était ça la meilleure décision avant que le vétérinaire se pointe? Est-ce que le vétérinaire... Ça va être beaucoup plus compliqué qu'on pense comme enquête parce que ça va être du cas par cas. Mais je répète un point qui est fort inquiétant là-dedans. Si ce qu'on nous allègue ce matin est vrai, il y a beaucoup trop de cas pour que ça soit un incident isolé. Et ça, c'est inquiétant.
On revient tout de suite après.